paysage vibratoire. L'émission de poésie, un habit de musique. Un moment radiophonique sensible et jubilatoire proposé par CFM Radio. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale. Oui, émission spéciale dans le cadre du Printemps des Poètes. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Gilles Lade. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, alors on va faire un coup de projecteur sur l'itinéraire sensible d'un professeur de lettres qui, de Castelsarrasin au Quercy, nous invite à un voyage personnel tout autant intérieur que spatial. Et pour cela, j'invite Michel à prendre la parole.
Eh bien, je vais brièvement présenter Gilles Lade. Vous êtes né en 1949 à Figeac. Vous avez passé votre enfance et votre adolescence entre la région de Toulouse et le Lot. Vous vous y êtes forgé un attachement particulier pour les paysages du Quercy qui restent votre point d'ancrage. Après des études de lettres classiques à Toulouse, vous avez poursuivi une carrière de professeur de lettres, tout d'abord à Moselle, puis à Orléans et finalement dans le Lot où vous résidez aujourd'hui. Après un premier recueil de poésie, L'âme de fond aux éditions Milas Martin en 1977 et une pièce de théâtre tout autour du silence en 1978, votre quête se poursuit dans la solitude jusqu'en 1983 où vous avez rejoint la prestigieuse revue de poésie Encre Vive. Vous avez beaucoup voyagé en Europe, notamment en Italie, à la recherche des sites et des lieux, mais aussi du génie de chaque culture, ce qui vous a inspiré le recueil Carnet d'Europe aux éditions Encre Vive, toujours en 1992. Vous êtes auteur de nombreux recueils de poésie, je vais citer quelques-uns, Le Cos et la rivière à l'arrière-pays en 1994, Valparadis en 1999 au cahier de poésie verte, Lente lumière chez Larmourier en 2001 et plus récemment Témoin de fortune toujours aux éditions L'arrière-pays en 2010, pour ne citer que quelques-uns. Vous avez aussi écrit des nouvelles, des récits comme Cette solitude aux éditions du Laquais en 2000, une anthologie des poètes du Quercy toujours aux éditions du Laquais en 2001 et des travaux critiques. Et vous faites partie du comité de rédaction des revues de poésie Encre Vive et Friche et vous collaborez à de nombreuses autres revues. Il vous a été décerné le prix Froissart en 1987 et le prix Antonin Artaud en 1994 pour votre recueil Les Forges d'Abel, publié aux éditions La Bartavelle. Voilà, et je relisais, je vous disais, Témoin de fortune hier soir, et je trouvais qu'il y avait beaucoup de notions de lumière dans ce recueil.
Oui, certainement, c'est... Les années passant, je me suis un peu délesté de ce qu'il pouvait y avoir de sombre dans ma poésie. Effectivement, la lumière, c'est une réalité vers laquelle je me sens attiré. Mais alors, c'est une lumière qui suppose une ombre quelque part. Hein, voilà.
Bien sûr. Voilà, pas de lumière s'il n'y a pas de ténèbres aussi. Voilà, c'est dans le contraste peut-être que naît votre vitalité poétique. Alors vous êtes très prolixe, ça a été rappelé. Presque chaque année, vous publiez quelque chose. Enfin, pas chaque année, mais j'ai vu quand même la liste. Voilà. Enfin, grand itinéraire. Alors vous êtes nourri de ces voyages en Europe. L'Italie vous a marqué spécialement peut-être.
Oui. L'Italie. D'abord par rapport à mes études, mais ce n'était pas la motivation première. Je trouve que c'est un pays où on trouve absolument tout, aussi bien au point de vue géographique, on trouve les glaciers des Alpes et presque l'Afrique en Sicile, et puis aussi du point de vue artistique, architectural, c'est tout à fait prodigieux. Donc c'est un pays de synthèse et d'ouverture, enfin, où on se sent bien.
Très bien, voilà, donc vous êtes nourri de tout et de lumière sur italienne, voilà, évidemment. Voilà. Alors, moi, en général, je pose une petite question au départ quand j'ai un invité. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier poème? l'époque, le contexte, votre champ émotionnel. Mm-hmm. Est-ce que vous vous en souvenez?
Oui, je m'en souviens très bien. Et justement, si vous voulez, ce premier poème était inséparable de l'état dans lequel j'étais. C'était en 70, disons, enfin voilà, j'avais 20 ans. Et j'avais du mal à mettre mes premiers pieds dans le monde adulte, parce qu'à l'époque, il arrivait que l'adolescence continue, surtout quand on avait fait des études, on était dans un cocon, etc. Et puis, bon, j'ai eu une période difficile, on va appeler ça dépression, remise en question, quelque chose de
la quête existentielle, du sens de la vie.
Voilà,
peut-être.
Voilà. Je ne me sentais pas clair avec moi-même, on va dire. Et du fond de ce désarroi, lorsque j'ai commencé à en émerger, disons, j'ai eu le sentiment qu'il faudrait que j'écrive. Alors pas pour en rendre témoignage directement, mais que cela pouvait me donner un argument pour écrire. Et je souhaitais écrire quelque chose qui ne soit pas du reportage ou de l'autobiographie. Par tâtonnement, j'ai compris que c'était quelque chose qui serait de l'ordre poétique. Mais il fallait inventer ce langage pour mon compte, en quelque sorte. Et je me souviens, enfin, d'avoir écrit quelques vers, avant même d'écrire un poème, quelques vers, et puis assez vite un poème. Alors à l'époque, j'ai écrit en vers classique, alexandrin,
d'accord.
Puisque bon, quand on commence, enfin...
Voilà, on fait sonner le mot, et
voilà. Et donc, ça a bien duré un an et demi. J'ai d'ailleurs un recueil que je garde précieusement parce que je ne le renie pas du tout. Malheureusement, de nos jours, si on peut dire malheureusement, l'écriture classique n'a plus cours dans la...
Ah, il y a un côté désuet. Hein,
voilà.
C'est dommage d'ailleurs parce que...
C'est dommage, oui.
Nous, il nous arrive de lire de la poésie d'autrefois ici. Moyen-Âge.
Oui, du Villon.
Du Villon, voilà. Non,
c'est ça, oui. Et oui, et donc, mais... Donc j'ai compris que je devais changer du moins le l'aspect formel, et au bout d'un an, un an et demi, j'ai écrit en forme, disons, contemporaine. Pour moi c'est net, quoi. Il y a un avant et un après, c'est-à-dire c'est que je n'ai pas écrit des petits essais poétiques à 14 ans, 15 ans, comme certains le font d'ailleurs.
Chacun son itinéraire. Parce que la poésie d'adolescence, on a tous un peu écrit sur le bord de la table.
Voilà, donc là c'était plutôt par rapport à une cassure, une rupture, enfin, quelque chose de dur, quoi.
Voilà, hein, donc voilà. Ça travaillait à l'intérieur,
voilà,
quoi.
Qui est engagé, voilà.
D'accord. Et écoutez, avant de poursuivre la conversation, on va faire une petite pause musicale avec Luc Roman, un auteur-compositeur-interprète pas très connu, et il parle de l'amour de ses 10 ans.
Amour de mes 10 ans, près du carreau du temple, où dans les yeux des filles coulaient ruisseaux précieux, l'eau des ciels d'Orient. Au front grisâtre et là des maisons du marais, barbare à symétrie de 1000 cheminées, en bouquets roses et noirs. Mes yeux en sortant de l'école avant de me vautrer dans les caniveaux sales où l'on jouait aux billes. Rue de la Corderie, la fille du tailleur m'entraînait à la cave sous les voûtes de pierre, me murmurait je t'aime. Je la revois encore remontant l'escalier dans la pénombre humide et sous sa jupe courte, blanche cuisse d'enfant. Faisant fleurir en moi des jardins suspendus où dansent les lumières encore pâles et fragiles d'étoiles inconnues. Aux noces de la ville, je suivais dans les rues cortèges colorés, les voitures de Biffin et de 4 saisons, qui portaient leur présent à la mariée, timide, rougissante de voix, sur sa robe de brume, des taches de soleil. Tandis que dans mon cœur venait se faufiler douce mélancolie, une litanie juive échappée d'une cour. Amour de mes 10 ans, au canal Saint-Martin, sur l'eau tachée de feuilles, j'écrivis tant de noms aussitôt effacés. Je fis tant de voyages, connus tant d'aventures, quand d'écluse en écluse, les rêves au bout des yeux, je suivais les chalands. Et du faubourg du temple à la rue des Rosiers, comme fleur étonnée découvrant le soleil, moi j'appris à aimer.
Luc Roman, l'amour de mes 10 ans. Alors Gilles Lade, poursuivant notre conversation. Alors, dans les années 70, vous faites une petite expérience théâtrale autour du silence. Une expérience, pourquoi? Pour lancer votre invariable clameur, comme vous l'écrivez, en voulant agrandir l'espace autour de vos silences, c'est ça?
Oui, voilà, c'est-à-dire que c'est une période très dense, où je cherchais ma voix, évidemment, comme on peut le faire à 20, 25 ans. En réalité, quand j'ai écrit cette petite pièce, parce qu'il faut mettre les choses leur réalité, bon, c'est une pièce de théâtre, en effet, puisqu'il y a des personnages. Il y a 5 scènes, 5 tableaux, on va dire. C'est assez particulier, puisqu'il y a un personnage muet, enfin, qui ne parle pas, qui est au centre, et il y a 6 personnes, 3 couples. 3 couples de jeunes gens qui sont autour de lui, et lui aussi est jeune. Et ils essaient d'interpréter ce silence. Et à la fin de la pièce, il se met à parler. Donc effectivement, il y a cette remontée du silence et de l'obscurité, si on peut dire, vers la lumière et vers la parole. Et je l'ai écrit en parallèle avec mes premiers essais poétiques. Et donc c'était un peu la chronique, enfin le résumé de ce qui m'était arrivé lorsque j'étais justement tombé dans le désarroi ou le désespoir ou le c'est une façon de remonter donc de ces profondeurs en même temps que j'écrivais aussi des poèmes, mais là c'était un peu une petite rétrospective, et donc c'est un témoignage au second degré puisque j'ai essayé d'en faire quelque chose d'artistique et de théâtral, enfin. Et donc la différence avec mes premiers poèmes, en particulier L'âme de fond, qui sont colorés, qui sont quand même pleins de vie et d'énergie, là c'est en noir et blanc, on va dire, c'est une pièce en noir et blanc, c'est-à-dire que cette parole, ça a été joué une fois d'ailleurs à Albi, par une troupe là dont je ne me souviens plus le nom, mais qui est remarquable, c'était une troupe de vraiment passionnés, enfin, et j'ai été très ému de voir que c'était joué. Et c'est quelque chose d'assez dépouillé. À l'époque, j'étais très influencé par Beckett. Mmh. Voilà. Alors, c'est un langage qui est moins fragmenté que celui de Beckett. Mais il y a un peu ça. Il y a cet éclairage assez cruel sous les projecteurs, en quelque sorte, quoi. Voilà.
D'accord. D'accord, d'accord. Alors, on vous doit aussi cette parole, vivre dans un espace et un temps choisi, occupé d'humains juste assez nombreux pour que le monde soit dépourvu de contraintes. Est-ce que vous pouvez justement nous éclairer sur ça? Bon, on a compris, c'est pas simplement un problème démographique, quoique il est important aussi. Donc, il faut se réapproprier l'espace, et il faut poétiser son lieu, pour mieux vivre entre nous.
Pourriez-vous me rappeler de quel livre c'est tiré, ça?
Alors, je n'ai pas la référence. Je suis désolé. Je n'ai pas la référence du livre, donc j'ai. Alors, parce que je regarde un petit peu.
Donc là, c'est effectivement l'idée que quand on écrit ou que on a besoin d'un espace un peu privilégié et d'amis choisis, en quelque sorte. Oui, c'est un peu ça. C'est vrai que quand j'étais jeune, on va dire que j'avais une 20aine d'années, j'étais assez sauvage et solitaire. Et d'ailleurs, ça s'est traduit dans concrètement, mes premiers écrits, je ne les ai pas diffusés, quoi. J'étais seul, voilà. Et j'avais quelques amis avec qui je parlais, mais
socialement... C'était une solitude salvatrice, c'était absolument nécessaire pour vous, cette solitude, c'était...
Oui, je crois... C'est-à-dire que c'était pas le refus, c'était pas l'enfermement total, hein, mais je me sentais tout de même assez peu armé ou désireux de me plonger dans la société complètement. J'avais besoin de me construire un peu,
ouais.
Et je pouvais me construire que dans une certaine solitude et avec des personnes qui pouvaient me répondre. Voilà, sur certains, enfin, avec qui je pouvais établir un dialogue, un vrai dialogue, quoi.
D'accord.
Voilà. Et c'était quand même constructif, puisque par la suite, j'ai été de plus en plus sociable, on va dire.
Ah oui, mais en fait, c'était nécessaire. Moi, je le comprends très bien.
C'est ça, voilà.
Parce que moi, j'ai besoin de mes marches solitaires aussi pour composer. Donc, je comprends très bien.
Oui.
Ça peut être poétique. Chez certains, c'est plus mystique. Enfin, voilà. C'est nécessaire. Mais alors, quand même, ce qui est flagrant chez vous, c'est cet attachement au territoire du Quercy. Mm-hmm. Alors là, c'est la grosse claque, là, quand même. Hein. Mm-hmm. Vous vous infusez dedans. Mm-hmm. Alors, pourquoi ? C'est un territoire sauvage qui a gardé son authenticité. C'est le révélateur de votre âme de poète, c'est ça ?
Mais je crois que c'est d'abord une construction qui s'est faite au cours de l'enfance et de l'adolescence. Donc, comme Michel Barrault l'a dit... J'ai passé mon enfance et mon adolescence dans le Tarn-et-Garonne, à Cassel-Sarrazin. Et bon, on a quitté avec mes parents. Mon père étant fonctionnaire, il a été nommé à Cassel-Sarrazin. Je suis parti à 4 ans de Figeac. Et j'avais déjà, bon, évidemment, j'avais pris quelques repères. Parce qu'il faut dire aussi qu'en plus, du côté paternel, il y a une maison de famille dans la vallée du Célé. Au milieu de la nature.
Ah oui, vous en parlez très bien, du Célé. D'ailleurs, on vous doit cette parole. La vallée du Célé, une vallée aux falaises blancs, éclatants et feux, longée d'une claire rivière, le Célé.
Voilà.
Là, tout est dit.
Voilà. Et donc, j'avais déjà une petite imprégnation, puisqu'on allait voir mon grand-père, quand même, assez souvent. Et lorsque je me suis trouvé, donc, scolarisé, parce que c'est la particularité, c'est quand même, c'est beau aussi, à Cassel-Sarrazin, j'ai fait toute ma scolarité de la maternelle, ou à peu près, quoi, à la terminale. Voyez ? Et D'accord. puis, une fois la terminale passée, nous avons redéménagé, nous sommes allés à Cahors. Bon, enfin, si vous voulez, il y a tout ce corpus de socialisation scolaire qui s'est passé à Cassel-Sarrazin, très bien, mais, par ailleurs, c'était la rupture avec le Quercy, parce que Cassel-Sarrazin est une ville de plaine qui n'a pas de point commun géographiquement, paysagèrement, avec le Quercy.
Bien sûr.
C'est très différent. Et ça me rappelle d'ailleurs que le grand poète Yves Bonnefoy, qui a des attaches familiales fortes dans la vallée du Lot, là, à côté de la Roche-Noirac, raconte son histoire familiale. Il dit, bon, ma mère, elle était de la vallée du Lot, et mon père était de Viazac, à côté de Figeac. Un tout autre monde, dit-il. Il y a 20 kilomètres d'écart.
Ben oui, mais la géologie change. Voilà. Enfin, voilà,
c'est le Ségala d'un côté, la vallée
de l'Ot.
Et là, c'est pareil. Alors, je me sentais en rupture par rapport à mon pays de naissance. Et il se trouve que je l'aimais déjà, ce pays de naissance. Et donc, à l'école, j'y pensais. Je voyais ces paysages. Et ça se construisait intérieurement, quoi, une sorte de polarité. Voilà. Et ça n'a fait que grandir et que s'approfondir au cours des années.
Très bien, oui. Mais ça se sent énormément dans vos écrits. Voilà. Alors avec l'âme de fond, ça, vous y allez à fond, si je peux m'exprimer ici.
C'est ça, oui.
Votre poésie contenue dans votre chaudron intérieur s'éclate au grand jour, et comme vous l'écrirez plus tard dans Lente Lumière, la poésie est un soleil sur le cataclysme. Alors vous pouvez nous préciser en quoi la lumière est lente dans votre univers poétique ?
Oui, parce que j'ai tout de même, je vous dis, par rapport à ces moments difficiles de la fin de l'adolescence, j'ai gardé une empreinte forte d'angoisse, on va dire, et puis qui ne me quitte pas totalement. Cette conscience de tout ce qui nous pèse du côté de l'inconscient, on parlait de psychanalyse, etc. Et donc... La poésie, bancaire des territoires sur tout ce monde-là, mais c'est difficile, le combat est difficile. Et donc la lumière, elle est lente, effectivement, il y a une élucidation de soi qui se fait, mais...
Progressivement.
Ouais. Et à certaines conditions qui sont souvent remises en cause, enfin... Et je ne dis pas que l'obscur est mauvais, parce qu'il y a plusieurs obscurs, quoi. Il y a les ténèbres...
Oui, il y a les ténèbres profondes, quand qui sont dangereuses.
Qui sont dangereuses, qui sont dangereuses. Et puis, il y a des clairs obscurs qui sont du côté de Rembrandt, par exemple.
Voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, est-ce que tout n'est pas gris? On est dans une palette de gris, en fait. C'est pas blanc, c'est pas noir, tout est gris.
Tout à fait d'accord. Ouais. Je suis tout à fait d'accord, et donc, il faut lutter contre ça. Effectivement, les lumières du Quercy m'aident à lutter contre ça, oui.
Ouais, j'en doute pas. Ouais. Ouais. Alors, puisque nous parlons de lumière, je vous propose une pause musicale avec La Nuit de Léo Ferré.
C'est ma frangine en noir, celle que j'appelle bonsoir. C'est un gars qui a son bien dans le bistrot du coin. La nuit, c'est le bourgeois qui se profile sous l'œil des filles de ville, qui croit que c'est arrivé et qui paie pour monter. La nuit, c'est cette dame qui s'en va donner sa langue au chat et mêle à ses dentelles la tendresse des gamelles. La nuit, c'est un amour qui meurt aussitôt qu'il se fait. C'est mille ans de bonheur dans un baiser vite fait. C'est cette môme qu'a perdu la seule fleur qu'elle avait et qu'attend dans la rue des fois qu'on la retrouverait. La nuit, la nuit. C'est le soleil du soir qui enfile son peignoir dans son arrière-boutique sous des becs électriques. La nuit, c'est le voleur qui va faire des heures supplémentaires et qui est pas tatillon sur les allocations. La nuit, c'est cet homme qui s'en va, sa Rolls au bout des bras et mêle à ses ficelles le trésor des poubelles. La nuit, c'est des chevaux qu'on emmène au derby des côtelettes, des moutons qui se promènent du côté de la Villette. C'est un soldat traqué à sa dernière ronde et qui compte les années comme on compte les secondes. C'est une copine qui vend ce que d'habitude on prend et qui pour 100 sous de plus se met sans dessous dessus. La nuit, c'est un chouette courant d'air pour les amours pas chers, un petit hôtel furtif pour les mini-tarifs. La nuit, c'est le mec qui transite tout sauf de l'eau bénite et mêle à ses hoquets le parfum du Beaujolais. La nuit, c'est cet homme qui se promène la nuit en plein midi et sa canne qui l'entraîne dans les autos de Paris. C'est cet homme qui a pas vu la pitié qui passait et qu'attend dans la rue des fois qu'on lui inventerait le jour
Vous êtes bien sur CFM Radio 90.2 à l'écoute de l'émission Paysage Vibratoire. Et ce soir, émission spéciale, nous avons invité un poète, écrivain, Monsieur Gilles Lade. Alors, c'est le moment de la lecture et je vous invite, Gilles Lade, à faire votre choix poétique et à lire pour nous votre choix poétique.
Bien, j'ai choisi donc deux poèmes. L'un du premier d'un recueil qui s'intitule Le Val-Paradis. Alors, j'explique un peu tout de même. Val-Paradis, c'était le nom qu'on donnait à une partie de la vallée du Célé au Moyen-Âge. Il y avait un prieuré du Val-Paradis. Et moi, j'ai... Toute la vallée du Célé, pour moi, devient Val-Paradis. Et alors là, c'est un peu le... C'est pas la description de la vallée, c'est l'évocation de la vallée à travers ma mémoire, c'est-à-dire tout ce qu'elle peut me suggérer de beauté contrastée, donc à travers la longue durée. Donc il y a à la fois l'eau qui coule, bien sûr, l'eau qui miroite, l'eau dans laquelle on se confronte, et puis il y a aussi les falaises qui entourent. Donc là j'ai pris sur l'eau simplement, hein. J'aime bien faire de la barque, et donc rêverie du rameur. Dans la barque à fond plat, on voit les jours s'en aller sur la source verte. Le rameur inscrit son sillage selon la pointe de l'île. L'accompagne les guets de lune fracassés par l'épervier. À profondeur d'homme, les galets font un feu d'algues. Une fraîcheur saisit même les larmes. Derrière le plus bel été, des étés reviennent, accoutrés de poussière, violents, nomades, d'ombre à nombre. Le dernier dôme, ensoleillé, passe le cœur vers l'hiver. Puis, un second poème, qui lui aussi parle un peu évoque un peu la nature. L'arbre, mais alors l'arbre en général, hein, qui est un peu le frère du poète, en ce sens que il grandit à partir de racines et qu'il a besoin du monde, il a besoin des autres pour se développer. Et c'est un peu un hymne à la vie aussi, puisque bon, c'est l'espoir de la vie, tout simplement. Frère l'arbre, ses racines qui seraient mon souffle. Arbre intouchable de longue adoration. Il se nourrit de notre attente au point de nous abriter l'âme. Arbre comme l'enfance rattrapée in fine. Arbre qui fait fleurir la profondeur étreinte, dont le feuillage brûle une lampe de silex.
Merci Gilles Lade pour votre lecture. Alors Michel, toi aussi tu as fait un choix poétique sur le texte de Gilles Lade. Et oui. Tu as choisi nous parler de quelque chose de noir.
Chose de noir, mais où il y a de la lumière.
Voilà, mais pas de désespérant.
Mais pas désespérant, voilà. Non. C'est dans le recueil, dans le silence du tableau. Chacun des poèmes de ce recueil témoigne de votre rencontre avec une œuvre picturale au cours d'une des nombreuses expositions réalisées depuis 1989 par la Maison des Arts de Cajar. Vous y témoignez de l'émotion que vous avez ressentie à partir des formes et des couleurs dans le silence du tableau. J'ai choisi le début de Le long des polyptiques de Soulages. Grâce au musée Soulages à Rodez, tout le monde en Aveyron connaît les tableaux de Soulages et peut donc imaginer ses œuvres. Le long des pas, un point de lumière, indécidable, sans atteinte. L'anthracite, la terre sous la dalle, le brou de noir, équivalent lumière, posé de face, posé biais, focale nécessaire au hasard de la marche. Peine à avancer, à s'affronter au noir sans bord, autre que le blanc de chaux. Dès le passage, le mat cède au brillant, à des raies, tombé de nuages lourds. Le vent, la vague, le désert, sillon unique, sillon répété. Pesé sur le noir, sa pulsation de viscères, femme à contre-soleil. Et le limpide change de côté, comme le droit pour qui croit avoir fait sien. Des livres traversés d'incendie. Une tunique aussi, de lambeaux parchemin, retissée, recousue. Acier et contre-acier juxtaposés intimes. Le clair archaïsme d'un gneiss qui monte vers nous.
Merci. Et moi, je terminerai par un de vos premiers poèmes, puisque c'est tiré de L'âme de fond. Il y a l'énergie, là, quand même.
Voilà.
Et puis, vous nous offrez votre sourire. Sourire. Quand l'écriture se fait plus lourde sur la page, effleurée dans l'amour des mots purs, quand elle est courageuse et simple, sans retour ni rature, quand elle suit sa voie brillante et prompte à se durcir, qu'on y peut lire une sagesse d'amour, le lendemain des chairs crispées, quand la main s'y sent noble à la servir sans hâte, forte et douce à la suivre plus loin, et quand l'esprit descend comme de l'air nouveau sur des rocs au mois d'août, les pas très lourds ne sont plus à venir, les mois ne sombrent plus, et le sourire seul revient derrière les yeux calmes. Il est là pressenti, et tyrannique aussi, comme trop de douceur sur trop de sourde haine. Il a, pour s'annoncer, pris le soin d'apaiser les vieilles entailles, les couloirs sombres d'amertume. Il est là sans vouloir se hâter, il a sa certitude à lui, comme l'eau des nuages d'été lumineux dans l'espace, ou comme le vent d'est au moment de la pousse des rameaux. Il a cette façon d'aider la plume lisse vers la droite des feuillets, cette façon de murmurer sa terrible force de joie et d'amour, comme au début de la symphonie, une seule ferveur née d'accords infinis. Sourire inaperçu, sourire à peine né, sourire sur l'abîme et sur la joie nouvelle, sourire de l'estang et de demain peut-être, il faut vivre de tout et même avoir l'envie de venir à nouveau, sur tous les creux soudains au lendemain des pas brisés, sur tous les froids plus durs, les mêmes mains tendues sur les rides glacées, les visages obliques et vains, venir à nouveau comme une pluie chaude en juin, aussitôt disparue dans l'herbe, miraculeusement redressée et souple et docile, bientôt sous le vent qui la lisse et la creuse. Ce vent soudainement bondit, large et dur, noble et simple, étrange et familier. Sourire annoncé de toi-même, ton parcours imprévu déploie l'âme et la guide, apaisée, adoucie et nouvelle. Toujours meilleur, toujours prochain, tu scintilles, t'éloignes, puis te caches et reviens. Ainsi s'achève notre émission. Merci de votre fidélité. Merci d'être à l'écoute de nos programmes. Merci Gilles Lode de nous avoir offert ce sourire et votre poésie.
Merci beaucoup.
Merci de votre présence. Merci à Michel, qui est une fidèle...
Lectrice,
du club de l'émission, voilà, c'est cela. Bien, alors nous sommes en plein aussi printemps des poètes.
Et oui, et je vous informe que vous pouvez circuler dans les rues de Villefranche-Jouhères, vous trouverez dans les vitrines des magasins des poèmes affiches sur le thème national Le Courage, et vous trouverez dans certaines vitrines deux poèmes de Gilles Lade. Et s'ouvre aussi demain à la Salle Voûtée, mercredi 11 mars jusqu'au dimanche 22 mars, l'exposition L'œil poète, où sont exposés des poèmes sur le thème Lyme, de membres de l'association ou de poètes invités, et aussi des œuvres d'art visuel, peinture, photographie, sculpture.
Voilà qui est dit. Eh bien, nous nous quittons avec une mélodie andalouse du Moyen-Orient, démarche voluptueuse et pris d'une gazelle par l'ensemble Aromate. Thank you.
paysage vibratoire. L'émission de poésie en habit de musique. Un moment radiophonique sensible et jubilatoire proposé par CFM Radio.